France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Dominique Viss, je suis né le 30 août 1955 à Lisieux dans le Calvados et je suis contre-ténor ou haute contre, c'est comme ça vous plaît.
En 1978, vous créez votre ensemble Clément Jeannequin. C'était aussi une manière de chanter un certain répertoire. C'était pas la musique baroque, c'était la musique de la Renaissance qui peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire, Dominique Viss, si je me trompe, mais est-ce que cette musique Renaissance, dans cet essor du baroque, n'était pas un peu parent pauvre et moins connu en tout cas?
Si, si, totalement. C'est deux mondes qui sont totalement différents en fait. Et qui le reste. D'ailleurs, malheureusement, il y a toujours un clivage entre la musique médiévale, renaissance et baroque, alors que ce sont souvent, très souvent, les mêmes personnes qui le font. Entre la musique baroque et la musique de la Renaissance, c'est très compréhensible dans le sens où la polyphonie, ça nécessite que les gens soient au service des autres. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est totalement impossible. Moi, j'ai une grande admiration pour les groupes anglais. Une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de créer mon propre groupe, c'est qu'ils arrivent à une osmose, à une écoute, à une réactivité en fonction. Sauf que pour moi, j'avais pas complètement le goût, enfin, qu'ils avaient par rapport au fait que toutes les voix chantaient de la même façon avec quelqu'un qui impulsait en fait une phrase, une pulsation. Moi, j'ai toujours voulu que dans le groupe, il y ait les personnalités qui restent singulières.
Des identités vocales, ouais.
Et c'est vraiment la difficulté. Que chacun garde son esprit, sa singularité, ouais. Et que ça fonctionne ensemble. Parce que très vite, surtout quand c'est à 4 voix, ça va encore, mais à 5, 6 voix, l'écriture elle-même fait que c'est très tassé. Comme en haut, c'est une voix d'homme, et qu'en bas, c'est une voix d'homme. En fait, le tissu, toutes les voix sont imbriquées. C'est aussi un jeu musical à l'époque d'imbriquer les voix. Donc on a du mal à reconnaître qui est qui. Et nous, systématiquement, on essaie que chacun garde son identité, quitte à ce que même la mise en place soit un peu mise à mal, parfois. Si quelqu'un a un jour une idée, accélère un tempo par rapport à ce qu'il a envie de dire, au lieu de le réprimander après le concert, on le suit. Et ce que je remarque avec le temps, c'est que, en général, souvent, c'est une bonne idée. Donc dans les chœurs en Normandie où je chantais, il est arrivé un jour où le prêtre qui dirigeait, l'abbé Kennec, a eu envie de faire les cris de Paris de Clément Jeannequin. Et on était 100 dans le chœur. Et là, pour moi, il y avait un truc qui ne fonctionnait pas, quoi. C'était juste ça n'a pas très bien marché d'ailleurs.
Il y avait beaucoup trop de monde.
Oui, beaucoup trop de monde. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui va pas. Déjà, les tessitures, évidemment, on chantait un jour Beethoven. Après Monteverdi, après on chantait les clés, ça fonctionnait pas. Les sopranes, elles chantaient à la cave. La deuxième ligne, la fameuse clé du 3, les contraltos, c'était juste impossible. Donc par curiosité, je me suis penché un petit peu sur les clés, sur comment c'était écrit. Et c'était l'époque où je commençais à chanter en fossé. Je me suis dit, ah c'est marrant, la clé du première, ça correspond exactement à la ligne de fossé sur une octave. La clé du 3, si on transpose d'un demi-ton, c'est un ténor. La clé du 4, c'est un baryton normal, une voix grave. Et il se trouve que dans le groupe, j'avais mon meilleur ami qui s'appelle Philippe Cantor, qui se posait les mêmes questions. Donc on s'est dit, par curiosité vraiment au départ, on a dit on va faire un groupe juste pour appréhender ce répertoire-là. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et
c'était quoi, un par parti au départ?
Oui, on avait un réel plaisir à chanter ensemble en chœur. Et il se trouve que dans ce grand chœur-là, en Normandie aussi, il y avait un petit ensemble qui s'appelait Josquin des Prés, justement. où on chantait maximum 12-20 personnes. Et moi, on avait déjà un réel plaisir à chanter une petite formation. Et on s'est dit, ben, on va aller jusqu'au bout à chanter un par partie. Forcément, c'était le plaisir suprême.
Ces musiques-là de la Renaissance, elles étaient quand même souvent des musiques à programme, enfin, c'est-à-dire des musiques pour la chasse, des musiques pour les banquets, les cris de Paris que vous évoquiez, voilà, la vie sur les marchés, etc. Quand on chante finalement ce répertoire dans une salle de concert, est-ce que le sel même de ce pourquoi la chose a été écrite est perdu, ou comment le garder, ou en tout cas, quel pont on fait soi-même interprète avec sens même de l'œuvre.
C'est toute la question, et c'est même plus compliqué que ce que vous venez d'évoquer, dans le sens où, évidemment, on considère que la chasse est fait pour être chantée à la chasse, mais pas du tout. L'écrit de Paris, c'était pas fait au départ. Il faut bien considérer que jusqu'à milieu du XVIe siècle, le concert n'existe pas. C'est vraiment, surtout vers la fin du XVIe siècle, où d'un seul coup les effectifs vont grandir. À la Sainte-Chapelle à Paris, il y avait 4 chanteurs. Notre-Dame de Paris, il y avait 4. Les jours de fête, il y avait 8 chanteurs. C'est tout. Et en fait, tout ce répertoire-là de chansons n'est fait que pour être une récréation entre ces gens qui écrivent la musique et qui la chantent habituellement à l'église pour se faire plaisir. Donc là, c'est mettre en musique une imagerie. Donc les gens comme Jeannequin vont aller beaucoup plus loin, c'est là ils vont carrément, parce qu'avant tout était métaphorique, c'était toujours des images, l'amour, enfin si on parlait de la nature, c'est toujours métaphorique par rapport à l'amour, quoi que ce soit comme thème, c'était toujours ça. Et là d'un seul coup Jeannequin arrive et c'est juste une description, c'est juste un enregistrement quoi. C'est ça qui est fantastique, avec des moyens très simples, avec un accord qui se répète pendant 3 pages quoi. Des fois c'est fa majeur, trois, et les onomatopées, les bruits, c'est tellement moderne à l'époque, et en fait c'est juste un jeu, mais un jeu entre soi, un plaisir entre soi. Donc le plaisir, c'est que pour eux, c'est que ce soit très complexe aussi. Comme c'était tous des compositeurs, les gens qui les chantaient étaient tous compositeurs, ils savaient décrypter la composition, donc c'était à celui qui allait aussi faire une imitation la plus compliquée, à 4, 5, 6, 7 voix, il y a des versions de la chasse à 7 voix écrites par Jeannequin lui-même, donc voilà, ils en rajoutaient. Donc c'est pour impressionner l'autre, quoi, pour chanter, pour avoir un plaisir. Donc ça fait un espèce de mélange vocal qui est totalement incompréhensible pour l'extérieur et qui n'a pas besoin d'être compréhensible puisque ce n'est pas fait pour. Donc effectivement, comment on fait maintenant avec des gens qui sont en face, avec le décalage de 500 ans, quoi. Nous, notre solution, c'est de théâtraliser la musique en tordant le cou à l'histoire, tout simplement. Moi, je transcris, je cherche au départ, j'essaie d'être le plus pur possible dans mes transcriptions. Et après, on passe à autre chose. On saute 5 siècles, on est là, et on propose une version qui nous correspond à nous, interne, mais on la transforme encore après pour projeter pour un public. Des fois, on est dans des espaces immenses, quoi. Alors que ces pièces-là sont faites pour être chantées dans les petits salons.
Il y a donc une part à la fois, enfin c'est comme si jamais il fallait, si je vous écoute bien, Dominique Wyss, aller au plus proche de l'œuvre, en comprendre toutes les lignes, toutes les interactions, comment le maillage s'est fait, pour ensuite, fort de ça, pouvoir s'échapper et fantasmer, si je puis dire.
Oui, absolument. Et d'où le fait que quand on fait un nouveau programme, maintenant presque systématiquement, je transcris des fois tout le compositeur. Donc par exemple pour les fausses relations, je cherche des preuves absolues qu'elles existaient. Parce que maintenant, à l'époque moderne, on a tendance à en mettre partout, par exemple. Les fausses relations, on a tendance à en mettre partout, voilà. Il faut que ça dissonne, c'est comme les percussions. Il n'y a rien qui m'énerve plus maintenant, c'est, enfin, depuis un certain temps, c'est qu'on fasse un concert, les gens viennent nous voir à la fin, disent « Ah oui, c'était vraiment génial, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de percussion. » Parce que c'est passé maintenant dans le tronc commun qu'à la Renaissance, il y a de la percussion. Mais non, dans les chansons, il n'y a jamais eu de percussion. C'était, dans les, enfin, à l'époque, les princes, tout était séparé, quoi. Il y avait la chapelle, il y avait le salon, il y avait la musique de l'armée, il y avait les fifres. Tout ça, c'était bien codifié et pas mélangé. Donc voilà, c'est la même chose pour les fausses relations. Si on n'est pas grinçant sur certaines notes, on pense qu'on fait des fautes. Donc je cherche désespérément la preuve qu'elle existe.
France Musique, les grands entretiens de Dominique Wyss.
Vous dites théâtraliser la musique, Dominique Wyss. Est-ce que ça veut dire que c'est le corps aussi qui rentre en scène ou c'est théâtralisé uniquement avec la voix quand vous êtes dans ce genre de répertoire?
Ah oui, bah les yeux sont très très importants. C'est comme au théâtre. Évidemment, on a tous, souvent même par trac, et puis en plus quand il y a beaucoup de monde dans un opéra, on ne sait pas trop qui viser. Mais moi, j'ai remarqué que si vous visiez une personne, toutes les autres personnes qui sont autour se sentent visées. Alors que si vous avez, parce qu'on apprend comme ça, oui, tu vises là-haut, entre le balcon et les gens qui sont en dessous, tu vises la ligne bleue des Vosges, et puis là, tout le monde est content. Mais je pense que c'est complètement faux, je suis sûr. Quand on vise une personne, on parle à une personne. Et d'abord, ça vous met un peu plus en danger. Et puis c'est super dur de chanter même à 20, 30 mètres à quelqu'un. Et je vous assure, les gens qui sont autour, ils ont l'impression que vous leur parlez à tous les yeux qui sont là. Donc il faut, même dans un concert de musique polyphonique, ce qui est difficile, c'est d'apprendre par cœur. Moi, je suis pas adepte non plus du fait qu'il faille tout chanter par cœur, parce que je trouve que ça ferme et qu'après, c'est systématique et en plus, tendance à avoir la machine interne qui fait qu'il y a la mémoire, quoi. Surtout, chanter tout un programme Renaissance par cœur, c'est quand même chaud, quoi. C'est difficile. Donc, même en concert, quand je vois les gens qui chantent par cœur, moi, je vois la petite machine interne qui, de la mémoire qui est là, et je trouve que ça coupe un peu le regard. Mais il faut suffisamment, c'est pour ça qu'on essaie de répéter toujours, même si on a moins le temps maintenant, de répéter suffisamment pour être totalement libre avec la pièce, et puis de s'exprimer comme si c'était du théâtre, et droit dans les yeux devant les gens, et d'avoir le nez toujours levé de la partition le plus possible. Même pour la musique sacrée, c'est tellement important. Sinon, vous êtes là, les gens sont à 10-20 mètres, vous avez le nez dans la partition, et là, il y a 50% de la magie de la musique qui est partie, quoi.
Dans cette vie de concert qui commence, il y a aussi l'opéra qui va arriver. Votre première opéra, Dominique Wyss, vous vous en souvenez, c'est Martinotti, c'est ça?
Oui. C'était... Ah oui, ça, je m'en souviens.
Et pourquoi vous vous en souvenez? Alors, parce que d'abord, c'était aussi le début de cette joie d'incarner un personnage, de faire partie d'une grande troupe, de ces 2 mois de répétition. C'était quoi
Il y a eu... Tout à la fois, quoi. C'est hallucinant, c'est le hasard. Jean-Claude Malgoire qui a créé l'atelier lyrique de Tourcoing, c'est en 81, si je m'en souviens bien, avait à cœur d'avoir une troupe. Vraiment à Tourcoing, en résidence. Et puis bon, ça c'était juste trop cher, je pense. Mais il a quand même gardé l'esprit. Il voulait que ce soit, comme son nom l'indique, un atelier. Un atelier, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout le monde était à la même enseigne, chacun... Personne ne savait trop comment ça allait fonctionner. Surtout qu'il n'y avait rien devant nous, quoi. Donc, il a voulu faire un atelier, avoir une troupe. Donc, il a, pendant des années, il a employé les mêmes personnes. C'est pas par confort, c'est juste pour que les gens se connaissent mieux et pouvoir avoir plus de liberté, au contraire, par rapport à certaines pièces. Sinon, si à chaque fois vous amenez une personne différente, vous êtes obligé de dire, non, là, tu fais ça. Là, non, il n'y avait aucune directive. Donc là, le premier opéra dans lequel je suis engagé, c'est Poppée. Donc, qui est quand même une des pièces emblématiques de l'opéra, pièce magnifique.
Monteverdi.
Donc, et là, bon, le rôle, est, évidemment, il m'a proposé de chanter Amore et chanter Valletto. Donc, en fait, c'est le même personnage. l'amour se travestissait en Valletto. Donc déjà, au niveau théâtral, c'est très intéressant. Et c'était mis en scène par Jean-Louis Martinotti. Et il y avait aussi des décors de Daniel Auger, qui est un super décorateur des costumes, magnifique. Et en plus, le décor était à la fois baroque, et les costumes à la fois baroques et à la fois très modernes. Et donc, d'un seul coup, je me retrouve devant cette pièce longue, magistrale, une grande référence, avec une angoisse totale par rapport à la mémoire, et à travailler d'une façon que je ne connaissais pas, et en fait en étant aussi totalement libre. Ça, d'un seul coup, on a travaillé pendant 2 mois, 3 services par jour, et en plus on était tout le temps collés ensemble. Il n'y avait pas de hiérarchie, on vivait la musique ensemble, on la créait ensemble, on écrivait la musique ensemble, il fallait aussi faire les parties séparées, écrire, transcrire, les transpositions. Parce que là, on n'avait aucun problème avec ça, quoi. Moi, j'ai moi-même décidé de Valletto, par exemple, ça l'est toujours, c'est inchantable tel que c'est écrit. Donc, transposer dans une tonalité qui paraîtrait maintenant très bizarre, mais il n'y avait aucun problème avec ça. Donc, on faisait notre matériel, et puis après, on mangeait ensemble, on faisait la fête là, tous les soirs, quoi, jusqu'à très tard, et ça recommençait tous les jours. Enfin, une collégialité qui était incroyable, inespérée, et à la fois avoir une grande liberté. Et ça, forcément, ça m'a fait énormément peur. C'est que là, d'un seul coup, on vous donne, ces gens-là vous donnent toute possibilité de vous exprimer. Alors que vous ne vous êtes jamais exprimé avant. Donc là, il y avait quand même un grand abîme devant moi et qui m'a fait quand même peur pendant toute la production. Et puis, il se trouve que on était bien coachés, puis c'est des gens très intelligents, donc ils ont su tirer, enfin, effacer nos faiblesses et tirer ce qu'il y avait en nous. Et puis bon, après le jour de la première, l'applaudimètre, quoi, d'un seul coup, c'est une espèce de libération. Et puis d'après, j'ai plus aucune question à poser. C'est ça que j'ai fait, et c'est surtout ça que je vais toujours faire. Et c'est à partir de ces rôles-là, notamment travesti, que je me suis dit, maintenant, je vais être moi-même. Je vais être comme ça. Et le théâtre vraiment a pris le pas sur la voix et surtout sur la technique vocale. Je me suis dit, ça a marché, ça a pas marché. On va me prendre comme je suis ou pas. Mais sinon, je vais trop souffrir. Donc effectivement, le théâtre m'a toujours dirigé. Et j'ai toujours évité, même quand j'apprends un rôle, j'évite. Mais j'ai du mal, comme tout le monde. Vous savez, quand on apprend un rôle, on se fait déjà une mise en scène. Surtout avec le temps. Eh ben voilà, même quand on reprend un rôle, on a toutes les mises en scène qui sont d'avant, qui sont là, et en fait, on se met sur scène. Ce qui est très très dangereux, c'est qu'en général, la personne qui est là, surtout quand vous l'avez fait beaucoup de fois, elle a à cœur de vous casser, de vous casser dans le bon sens, et de vous proposer...
Changer de modèle.
Voilà, j'ai fait plein de... Voilà, la nourrice de Popée, je l'ai fait plein de fois, et ça m'est arrivé des fois d'être mis en scène de façon dramatique. Enfin, je veux dire que d'un seul coup, je deviens un personnage dramatique, et c'est génial, quoi. Mais donc vous arrivez là et il y a un moment de stupéfaction. Même les tempi, il n'y a rien à faire. En plus, c'est avec la mémoire, vous apprenez les choses par cœur, donc ça sort comme ça. Et quand le chef vous dit « Ah non, 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 ça c'est trop vite, ça c'est trop lent », là il y a un temps. Et vous devez vraiment vous faire violence pour... Et vous devez le faire, parce que à chaque fois, le chef ou le metteur en scène, il a raison. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Il faut faire confiance aux gens, et pour moi, c'est peut-être ma personnalité comme ça, mais j'ai une énorme jouissance à arriver à donner au chef ou au metteur en scène ou aux gens qui entourent ce qu'ils attendent de vous que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est une réelle, réelle jouissance.
Et alors le Dominique Vis que vous avez découvert en vous travestissant, en nourrice, en sorcière, dans les personnages les plus fous, vous avez découvert une partie de vous-même alors à cette occasion-là?
Ah oui, absolument. Bah, surtout de me libérer de ma timidité, quoi, qui était maladive. Et ce qui est génial, c'est que d'un seul coup, le théâtre, et surtout le travestissement, toute façon, c'est tout ou rien, quoi. Ou c'est ridicule, ou alors ça fonctionne vraiment énormément. Donc ça, ça m'a pris énormément de temps, à telle enseigne qu'après, j'ai chanté complètement nu, par exemple. Ce qui était totalement impossible, enfin, si je remonte en arrière. J'ai aucun problème avec ça, c'est... demander n'importe quoi, de chanter, même la moto, voilà, je suis arrivé à Aix, en moto, le metteur en scène m'a tout de suite m'a dit, ah oui, tu vas venir en moto sur scène. Ouais. Et en plus, il m'a dit, oui, tu vas avoir deux filles derrière. Moi, je suis pas d'un grand gabarit, une très grosse moto, et en plus, il me met deux personnes derrière, et je dois arriver sur la scène de Aix à tourner autour d'un, en plus d'un bassin avec de l'eau. Et en fait, j'ai pas réfléchi. Et heureusement, parce que sinon... j'aurais dit non, c'est trop dangereux, trop dangereux. Donc effectivement, je suis à la fois cartésien et fermé, et dès que je passe au-dessus de ça, j'ai quand même l'esprit assez libre. Vous savez, je suis un pur fruit des années 68. Ah non, j'ai plein d'histoires comme ça où j'avais les cheveux très longs, on m'appelait toujours mademoiselle dans la rue. Au bout d'un certain temps, on m'appelait madame, ce qui déjà m'a pas plu. Non, j'ai plein d'histoires. Je faisais l'autostop, tout ça. Et la nuit en Normandie où les gens s'arrêtaient pour me prendre au stop, ils me prenaient vraiment pour une femme. Je portais un manteau de vison. Enfin, j'étais habillé comme, on s'amusait énormément avec ça. Donc là, c'était la stupeur des gens quand ils ouvraient la voiture, qui s'arrêtaient quand on faisait du stop. Non, je me suis énormément assagi. Et puis après, par rapport à, voilà, quand j'ai une famille, quand j'ai des enfants, j'ai fait attention parce que le regard des gens, des amis de mes enfants et tout ça était parfois douloureux. Donc je faisais attention.
Vous êtes devenu père en quelle année?
87 et 90.
On peut le dire aussi, vous avez eu des enfants avec Agnès Mellon.
Ah oui.
Deux enfants.
Oui, deux enfants.
Qui sont musiciens?
Mon fils est trisomique. Mais il joue énormément de musique. Il joue du basson. Il est toujours au conservatoire, d'ailleurs. Il joue de la viole, la contrebasse. C'est un super musicien. Il connaît tous les disques par cœur. Il connaît toutes les plages de tous nos disques. Et ma fille a eu un groupe de rock pendant un moment. Mais elle est chef maintenant.
Elle est chef, exactement, bien sûr.
Oui, à Marseille.
Le goût aussi des bons plats. Et ça, c'est quelque chose qui rassemble, je trouve, beaucoup dans la musique ancienne. Vous évoquiez Malgloire, William Christie qui faisait la cuisine. J'imagine que vous-même aussi, vous devez aussi être amateur de bonne cuisine et de bons vins. Vous avez une fille qui est devenue aussi chef. C'est peut-être pas complètement par hasard. J'ai l'impression que ce partage dans la musique, ce goût de l'aventure, il va souvent aussi avec le goût du partage de l'assiette.
Oui, aussi. Absolument. Je pense que c'est vital même. Enfin bon, voilà, moi j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours adoré cuisiner, donc ma fille revendique le fait que c'est un peu grâce à moi. Moi je pense pas, je pense que c'est aussi dans sa fibre. Mais pour moi le partage est nécessaire et vital, quoi. Il y a rien à faire, même quand j'ai des programmes chez moi difficiles, je dois faire les programmes, les transcrire, amener tout le matériel, je veux que les gens soient le plus libres possible quand ils arrivent. Et en même temps, je cuisine pour tout le monde. C'est juste impossible de faire autrement. Je peux pas. Enfin, pour moi, c'est trop lié. Et ce que j'ai, c'est peut-être dans ma nature, mais c'est aussi par rapport à ce que vous disiez que j'ai appris, notamment de William Christie, qui faisait la cuisine en même temps, que je trouvais fascinant. Et puis Malgoire était un super chef aussi. Mmh. René Jacobs, un petit peu moins. Même s'il est arrivé certaines nuits de, où il avait un peu trop bu, qu'il nous fasse des œufs au plat, c'était très drôle.
Et quel vin extraordinaire! J'en ai tant bu, mais tant en temps, que je crois bien que maintenant je suis un peu grise, mais chut! Faut pas qu'on le dise, chut! Faut pas! Si tout en marchant je zigzague, et si mon œil est aigriard, il ne faut s'en étonner, car je suis un peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise, chut, faut pas. faut pas.
Un clin d'œil à Offenbach avec cet air de la Péricole par Dominique Wyss et l'orchestre philharmonique de Camargue dirigé par Reinhard Wagner. C'est ainsi que se clôt le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Dominique Wyss, équipe de production Lionel Quentin, Jason Taus, Benjamin Vignal et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.